Nous sommes au début du XVIIe siècle. La Corse sort alors d'un XVIe siècle assez chaotique, c'est le moins que l'on puisse dire, secoué par les guerres chinarchaises et les guerres de Saint-Pierre ou les interminables séries de razzias perpétrées par Hidourki. Les assauts de ces derniers ralentissent peu à peu à partir de 1620. Le littoral ne sera jamais véritablement sûr. Les Turcs frapperont par exemple un grand coup d'éclat en 1643 en prenant le fort d'Algaiola. Mais la fréquence et l'intensité des attaques décroît considérablement. Ils ne sont plus vraiment au centre du jeu. À présent, le fait central de ce XVIIe siècle est qu'il est celui de la Corse génoise. Un siècle entier où personne ne contestera dans l'île la présence de la Sérénissime République. Certains l'ont appelé le siècle de fer, d'autres la paix génoise, d'autres encore le beau XVIIe siècle. Tâchons d'extraire une vérité de ces lectures très contradictoires, mais surtout de comprendre la relation ambiguë qui a si longtemps lié la Corse et la République de Gênes. Pour commencer, il faut tenter de comprendre les rouages de la présence génoise en Corse. Gênes est au XVIIe siècle une grande puissance financière. On dit à l'époque que l'or né aux Indes occidentales, c'est-à-dire l'Amérique, meurt en Espagne et est enseveli à Gênes. Gênes est donc la banquière de la couronne d'Espagne, à une époque où cette dernière ramène du Nouveau Monde des galions chargés de quantités insolentes d'or. Cité riche, prospère, peuplée, mais elle a de nombreux talons d'Achille. Elle est faible militairement, dépendante de ses alliés et dépourvue de territoire. La Corse et ses présides représentent donc une possession de premier ordre pour les Génois, mais à une condition. La Corse ne doit pas coûter trop cher. Mater les rébellions a été extrêmement coûteux pour la Sérénissime et sa faiblesse militaire la pousse à craindre au plus haut point la capacité de révolte des Corses. D'autant plus que les antécédents en sont lourds, c'est le moins que l'on puisse dire. La frilosité des Génois vis-à-vis de la Corse et leur méfiance vis-à-vis des Corses va se solder en quelque sorte par la mise en place d'un non-système. Peu de soldats, peu d'administration et peu d'ambition. En fait, Antoine-Marie Graziani, dans son ouvrage sur la Corse génoise, explique que ce sous-développement revêt quasiment un aspect tactique. Développer la Corse pour Gênes, c'est courir le risque de la rendre attractive et donc d'attirer la convoitise des puissances étrangères, voire de faire germer chez les insulaires l'idée d'une émancipation et, in fine, de perdre l'île. Ainsi, l'archaïsme solidement ancré dans l'intérieur a beau horrifier les Génois, il arrange tout le monde. Gênes est adossée à une administration minimaliste. Elle se charge de la collecte des impôts et du maintien de l'ordre, le tout pour une balance financière qui doit être équilibrée. L'impôt sert à payer l'administration. Point. L'importance stratégique de l'île prime sur toute autre considération. Peu de soldats, peu de fonctionnaires. Il est évident que le vrai pouvoir dans la plupart des régions de Corse revient une nouvelle fois à l'usogorso, c'est-à-dire cette forme d'anarchie autorégulée qui caractérise l'intérieur depuis la chute de l'Empire romain. Sans partenariat avec les notables insulaires, la Corse est tout simplement ingouvernable. Voici comment se structure l'administration génoise en Corse. Officiellement, les insulaires sont exclus des offices publics, notamment l'exercice de la justice qui incombe aux juges génois. Au sommet de la pyramide, on retrouve le gouverneur. Il est reçu et relevé en grande pompe à Bastia, où il siège dans le palais de la citadelle. Jean-Marie Arrigue et Olivier Géaz nous disent que le gouverneur est issu de l'aristocratie génoise, d'un albergo donc, qu'il est doté d'un pouvoir absolu selon les textes juridiques. Il rend seule la justice dans le territoire de la capitale, Bastia, et juge en appel pour le reste de l'île. Il est chargé du maintien de l'ordre pour lequel il est aidé par le directeur des prisons, le Castellano, et c'est Bargelli, les chefs de quelques dizaines de policiers, isbirri, hommes à la réputation inquiétante et dont les méthodes valent largement celles des bandits qu'ils doivent poursuivre. On se doit de pondérer ce portrait peu engageant par la présence des représentants corses auprès du gouverneur, les nobles 12 pour le nord et les nobles 6 pour le sud. Deux fois plus de représentants pour le nord, simplement parce qu'il est deux fois plus peuplé. Ils n'ont pas fait que du bien, les guerres chinarquaises. Ces notables corses n'ont pas de pouvoir exécutif, mais ils pèsent sur les décisions du gouverneur et peuvent intervenir, par exemple, sur les cours du grain, l'état des routes ou encore les bindettes. Principali, caburali, pubulani, la notabilité insulaire est le plus souvent issue des notabilités antérieures, qu'elles viennent des seigneurs déchus ou des populaires. Les Génois, nous dit Polarighi, appellent péjorativement ce petit monde « i gabizzoni ». Ils ne les aiment guère, même s'ils se sont servis d'eux lors des troubles du XVIe siècle. Car si Gênes est contrainte à s'appuyer sur les notables corses, elle a choisi parmi eux ceux qui ont montré patte blanche. On les appelle les benemeriti, ceux qui ont bien mérité. C'est-à-dire ceux dont les familles ont été ennemies des Cenarchesi ou ont pris le parti des Génois contre Saint-Pierre Ugorso. Lorsqu'un Corse demande le port d'armes ou une exemption d'impôts, les Génois demandent avant tout les antécédents familiaux. Et là, mieux vaut ne pas avoir eu un oncle sampieriste ou s'appeler Diarocca. Ainsi, décidé le plus souvent au coup par coup, bâti sur des principes moraux douteux et adossé à une bureaucratie trop faible pour réellement administrer le pays, la politique génoise est à plusieurs vitesses, nous dit Antoine-Marie Graziani. Une pour les villes, peuplées de colons considérés comme ligures, fidèles et privilégiés. Une pour les notables ruraux, exemptés d'impôts, honorés et servant de courroie de transmission au pouvoir. Une autre enfin pour la masse de la population villageoise, incapable de réagir et d'obtenir justice. Fin de la citation. C'est un système brinque-ballant, mais qui pourtant va réussir à tenir debout de longues décennies sur cet improbable équilibre. D'ailleurs, que sont-ils devenus, ils ignori, et leur puissante seigneurie? La Rocca Alega ont été dissoutes. Les descendants les plus dociles des lions qui habitaient leur château sont au mieux devenus des petits chats, accrochés aux coussins brodés que veut bien leur laisser la Sérénissima. Restent les Istria, les Bozzi et les Ornano. Là aussi, Gênes a choisi les plus loyaux à qui elle accorde quelques privilèges. Plus de châteaux. Ils gisent éventrés au sommet de leurs montagnes. Les Istria, chassés de leur forteresse, font de Bikija, à côté de leurs villageois de Pedretu. Les Bozzi et les Ornano, eux, s'installent dans les villages, où ils font bâtir des maisons vaguement fortifiées aux toits en tuiles. Plus de projets politiques. La baguette des comtes de Corse est ensevelie à Rome, dans le caveau de Giampaolo d'Arega. Il ne leur reste plus qu'un nom, et un peu de morgue. Une morgue qui les pousse à exiger auprès de leur population un impôt jusqu'à 5 fois plus lourd que celui des régions directement gouvernées par Gênes. Ils ignorent, on les suivait lorsqu'ils étaient des chefs de guerre. Ils avaient leurs défauts, leurs dérives, parfois leur tyrannie. Mais personne ne pouvait mettre en doute leur valeur et leur courage. C'était à la pointe de l'épée qu'ils forçaient le respect de leur suite. Giuige, Vincentello et même Rinuccio faisaient lever en un claquement de doigts 500 fidèles. Que peuvent espérer à présent les Bozzi, soumis à Gênes et bénéficiant de privilèges en laisse? L'impôt, on leur paye de moins en moins volontiers. Ils usent de violence pour l'obtenir. Au début des années 1610, la tension monte. Les villageois cherchent par tous les moyens à se soustraire à l'autorité des féodaux. Gênes s'en lave les mains. Les seigneurs, enfin ce qu'il en reste, vont alors commettre leur toute dernière faute tactique. Le 29 juillet 1615, les seigneurs décident de lever de force l'impôt. Ils se rendent à Bastelliga, le plus gros des villages concernés. Ils n'y trouvent qu'une troupe d'hommes armés et manifestement assez peu disposés à payer. Les responsables sont convoqués à Ajaccio, mais aucun ne se déplace. Ils ont tous pris le maquis. L'affaire dégénère complètement le 10 août, pendant que le village de Campo célèbre la San Lorenzo. 12 membres de la famille Ebot s'y sont massacrés. 300 insurgés venus de Bastille et des villages alentours menés par Rinuccio, le curé de Campo, mettent à feu et à sang la région. On va jusqu'à Caneggiare, la dépouille du pauvre Carlo d'Abozzi, c'est-à-dire qu'on la jette aux chiens. Gênes joue alors la carte de la répression. Elle dépêche sur place 2000 hommes. 21 personnes sont mises hors la loi, une seule se rend. Toutes les autres tiennent le maquis et sont condamnées à mort par contumace. Les autorités parviennent à arrêter 82 personnes lors d'une opération surprise dans les montagnes. 7 sont pendues, 6 envoyées aux galères. Mais les principaux cadres de la révolte demeurent insaisissables. Ils sont intouchables dans les montagnes de Bastelica. Et Gênes réalise qu'elle risque de perdre beaucoup d'hommes pour pas grand-chose. Finalement, à la suite de tractations discrètes, les insurgés bénéficient d'un sauf-conduit pour s'embarquer vers l'Italie. Une paix est signée entre les villageois et les familles de seigneurs, et les choses entrent dans l'ordre. Mais la révolte des Trois-Pièves marque un changement d'époque. Le temps des seigneurs est terminé. Non pas parce que Gênes l'a voulu, mais parce que la population n'a plus reconnu aucun droit à ces seigneurs défroqués. On constate aussi que lorsque Gênes tente d'imposer une autorité manu militari, elle se heurte au pays, sa géographie, ses habitants, sa culture et in fine se voit contrainte à la négociation. Pour Gênes, c'est acté depuis longtemps. Gouverner la Corse sera difficile. Y imposer un état de droit utopique, la gouverner sans les Corses, tout simplement impossible. Le XVIIe siècle, lui, est en marche. Pour autant, il faut se garder du portrait d'une Gênes abattant sur la Corse une main de fer, organisant son exploitation coloniale, comme on a souvent tendance à le penser aujourd'hui. Il y a bien eu des projets coloniaux, notamment à l'époque du Banco San Giorgio, mais le plus souvent, ils se sont soldés par des échecs. Le plus retentissant étant sans doute la lamentable aventure de la Nuova Ventimiglia. Gênes organise en 1578 l'installation d'une colonie de Ligure sur le site de Portiveccio. 150 familles s'y installent et rebaptisent le site la Nuova Ventimiglia. Le projet est prometteur, la cité est rapidement fortifiée, mais au final, la colonie intéresse peu les investisseurs et se retrouve rapidement livrée à elle-même, peu ravitaillée et se heurtant même à la méfiance des villages corses qui l'entourent. Mourant de faim et décimé par le paludisme, la plupart des familles abandonnent la ville un an à peine après sa fondation. Les uns retournant sur le continent, les autres errant de village en quête de charité. Antoine Marie Graziani précise que les motifs qui poussent les Génois à vouloir établir des colonies en Corse sont d'ailleurs assez peu glorieux. Il s'agit, je cite, de « débarrasser la Sérénissime de sa marginalité en déportant les bandits, les mendiants et les vagabonds ». Polarigui, de son côté, révèle un autre exemple d'installation avortée. En 1704, le gouvernement a la lumineuse idée de concéder à un riche Génois le domaine de Galeria, c'est-à-dire la principale zone d'impiadière des bergers gnolins. Le temps pour ces derniers de descendre le Falazorma et le domaine est saccagé, on abandonne prudemment le projet. Pérenne, en revanche, l'installation des Grecs de Paomia. Ils étaient originaires de Vitilo, un petit village dans un décor d'olivier que l'on pourrait confondre avec la Balagne. Les villageois fuient les attaques des Ottomans et en 1675 arrivent à Gênes. On leur propose alors de s'installer en Corse. 590 Grecs sont ainsi conduits à Paomia, où ils s'installent et baptisent leur église. Ils y conservent les rites grecs, mais acceptent de reconnaître l'autorité pontificale. C'est ce qui explique la présence aujourd'hui de deux églises à Cargèse, une latine et une grecque. La colonie met en culture la région, ce qui posera régulièrement des problèmes avec les insulaires, notamment les populations de bergers qui se voient privées de leur zone de pacage historique. Les terres de Paumia sont étendues, une nouvelle fois au détriment des Corses. Des affrontements éclatent alors avec les villageois de Rennes. Les Grecs obtiennent le port d'armes pour se défendre et même une tour. Les nouveaux venus mettront des siècles à se faire accepter. Exemple assez révélateur d'une cohabitation houleuse avec les insulaires, de nombreux Grecs de Paumia combattront aux côtés des troupes françaises à Ponténoo. Bref, mis à part quelques exemples bien peu glorieux d'installations de colons et l'exploitation très réglementée du corail qui est réservée aux familles génoises, il n'y a pas vraiment d'exploitation coloniale de la Corse par Gênes. D'ailleurs, on peut se demander quelle autorité peuvent bien exercer les Génois dans le Far West qu'est la Corse de l'intérieur. Antoine-Marie Graziani raconte une anecdote assez révélatrice de la situation. Les familles de principali rivales se livrent souvent une guerre sans merci. En 1617, les Peretti et les Lanfranchi de Liuvia s'affrontent au col de Baella. Les officiers génois tentent alors d'intervenir. Ils sont pris à coups d'arquebuse par les uns et par les autres. Vous me direz, ils se seront au moins mis d'accord sur quelque chose. Oui, Gênes a vaincu les Cinarchesi et San Piero. Oui, elle a placé des notables qui lui sont favorables. Pour autant, dès que l'autorité se mêle de ceux qui ne la regardent pas, on le lui fait savoir. En l'occurrence, de façon très explicite. Autant dire que les élections des nobles 6 et des nobles 12 sont souvent hautes en couleur, voyant se promener dans le pays des candidats suivis d'imposantes escortes armées. Cette Corse de l'intérieur se gère, se codifie et s'équilibre d'elle-même, comme elle le fait sans doute depuis la chute de l'Empire romain. Les villageois sont ancrés dans des réseaux de solidarité, de loyauté, dans un monde où l'interconnaissance et la crainte de représailles sert aussi souvent de garde-fou. Face à un pouvoir absent, lointain, étranger, voire souvent dans le cas des Génois, dépassé et corrompu, la famille s'est muée en état. À une justice défaillante, reposant sur une poignée de fonctionnaires de passage et ayant a priori leurs favoris parmi les locaux, les Corses préfèrent le système de la bindetta. Meurtrière, terrible aussi par son côté transversal qui fait qu'en l'absence du vrai coupable, on peut très bien abattre son frère, voire son cousin pour toucher la faction adverse. En Corse, on dit « a chi un nemigi, una amigi ». Lorsque l'on refuse de faire bindetta, les femmes font le rimbecco, agitant même les chemises ensanglantées du père, du frère ou du fils, pour exhorter celui qui est le plus à même à faire ce qui est perçu comme un devoir sur lequel repose l'honneur de la famille. Charmia miseria vieta la malavia. Ilum all'angunia chi campa biduberiu. La zia malaetta per la trista sciaura. Monte pianura, chiamano a vendetta, chiamano a vendetta. Cela dit, la vendetta est bien plus codifiée qu'il n'y paraît. Et souvent, les émissaires de paix, Iba, Jerry, réussissent à éviter le pire, à faire signer aux familles un traité de paix qui souvent se solde par un mariage, comme des états en guerre. Et pour être tout à fait franc, lorsque l'autorité génoise tente d'intervenir, c'est pire. Antoine-Marie Graziani écrit que « il n'existe aucune cohésion réelle entre les élites locales et l'administration génoise. Ces mêmes élites ne sont pas organisées comme un groupe de pouvoir, mais comme un ensemble de principali en compétition constante entre eux. D'ailleurs, ces élites ont une attitude très ambiguë vis-à-vis de la vendetta. Ils utilisent l'exercice de la justice pour protéger leurs intérêts, tout en restant très attachés à ce code primitif qu'ils partagent avec les populations et qui glorifie leur droit à résoudre par la violence tout affront fait à l'honneur. Un Ainsi, sans véritable ancrage ni relais, Gênes a une fâcheuse tendance à agir à tort et à travers, proclamant des amnisties à qui voudrait s'engager dans l'armée génoise, nommant des commissaires aux pratiques brutales pour des épisodes de répression d'une violence aveugle et non suivie, ou pire encore, en mettant en place le système du taglione, la prime à la destruction du bandit. Attisé par la pauvreté qui sévit en Corse à la fin du XVIe siècle, le banditisme explose. Et on ne trouve pas mieux que le système du taglione qui lâche en roue libre des hordes de chasseurs de primes de tout poil, souvent pire que les bandits eux-mêmes. Le comble de l'horreur est atteint lorsque l'on demande à Igacciadaie de fournir pour preuve la tête du bandit. Voici deux anecdotes narrées par Antoine-Marie Graziani. Pendant des décennies, le nord de l'île est déchiré par une guerre civile larvée qui oppose i Negri et i Rossi, du clan des Caburali de la Casayanca. Les réseaux de solidarité entre familles font que certains villages sont dits i Negri et d'autres dits i Rossi, ce qui crée une division factieuse du territoire. Et le pire dans tout ça, c'est que personne ne connaît l'origine de l'inimitié qui reste aujourd'hui encore assez obscure. Bref, le chef des Rossi, Luzio di Agasayanca, voit dans le taglione une opportunité de se débarrasser de son rival, Valerio di Agasayanca. Il va, le tue, le décapite, opportunément durant la période de la relève du gouverneur. Il se présente ainsi, sereinement, devant le nouveau gouverneur en disant « Vous savez, j'avais un accord avec votre prédécesseur pour débarrasser la Corse de ce dangereux individu. Comme on dit, sur un malentendu, ça peut toujours passer. » Mais c'est surtout cette relation d'interconnaissance entre les individus qui crée des codes très stricts, fédère des blocs de solidarité pour le meilleur comme pour le pire et crispe à l'extrême la notion de l'honneur. Antoine-Marie Graziani écrit « Si l'image publique d'un individu se dégrade, c'est son être social qui se dégrade. Ainsi, toute espèce d'injure mettait en péril la réputation de l'agressé qui ne peut pas laisser les choses en l'état sans que sa renommée soit atteinte, voire complètement détruite. » Voici une autre anecdote. Le bandit Fabien Loudasco croise un villageois, sans doute exaspéré par les exactions du bandit. Il lui dit « Oh, va bien, on est un coup d'un pour que tu lâches ta strada. » Ce à quoi le bandit répond « Force est d'occater, dit le châle. » Et Fabien nous s'écroule, foudroyé. Mais qu'on ne s'y trompe pas. La Corse est violente, mais à l'époque, l'Europe entière est violente. En Corse, la particularité réside sans doute dans l'accaparement par les familles et les communautés du pouvoir régalien, normalement propre à l'État. Les États sont-ils intrinsèquement plus vertueux que le code archaïque de la Bindetta ? Dans ce cas précis, en comparaison, on ne peut pas dire que le pouvoir génois ait particulièrement brillé par la qualité de sa justice. Et puis surtout, il serait affreusement réducteur de résumer la Corse à une succession d'archaïsmes et de violences. L'île a même eu un saint à cette période. Vous me direz Bisogno Ginera. Il s'appelle Saint Alexandre Saori. D'origine génoise, il est envoyé en Corse en 1570 pour tenter de familiariser le clergé local avec les préceptes édictés lors du Concile de Trente, en astreignant les prêtres à une certaine discipline. Et manifestement, il y a du boulot. Les histoires de prêtres armés jusqu'aux dents, suivant avec une fougue doncamiesque les élans vengeurs de leur clan, sont foison. On surprend même certains à se battre à coups de chandeliers à la sortie des églises. Quant à la chasteté, lors d'une mission jésuite en 1552, le père Landigne écrit « Je crains que la plus grande partie de l'île ne soit plongée dans l'idolâtrerie. Les ecclésiastiques ne se distinguent pas des laïcs. Ils vont labourer les champs pour nourrir les enfants de leurs concubines. » Voici quelques anecdotes glanées dans la Corse génoise d'Antoine-Marie Graziani. Le curé de Sancibriano est accusé par les gens de la Porta d'Ampugnani d'être habillé en laïc, de porter des armes prohibées et d'être, je cite, « un assassin public ». Celui de Felice Edu est accusé d'avoir suspendu par les pieds un enfant qu'il soupçonne de lui avoir dérobé des pièges à oiseaux, tout en allant à l'église avec pistolet et arquebuse, on cisamaille. Mais la palme de l'horreur revient sans doute au recteur de Skolka, qui sous prétexte de confession attire une femme mariée dans l'église et la viole sous l'autel le jour de Noël. Dans l'île, on pratique même la nécromancie. Des témoignages racontent comment certains se glissent dans les arcs, les fosses communes, pour récupérer des cadavres, les décapiter et ensuite planter des fèves dans les orifices, puis les arroser en prononçant une formule rituelle. Les fèves qui en poussent sont censées rendre invisibles. On appelle ces pratiques « emagunie ». Cela dit, il ne faut pas penser pour autant que la Corse est dénudée de foi chrétienne. Bien au contraire. C'est davantage la rigueur de l'exercice religieux qui pêche. Dans les faits, les Corses sont très attachés à Rome et à la chrétienté. Les églises continuent à se bâtir, fort belles là où on a les moyens, archaïquement là où l'on manque, dressant des statues de marbre ou de bois sculptées avec les moyens du bord dans les villages de montagne. Les Corses croient à leur manière, une croyance mélangée de façon étonnante avec le paganisme. Mi balegi la natura et tragarca di parole, le magie di l'antichi so sicure non so folle. Cisole forze suprane, illa notto al sole. Polarighi écrit à ce sujet un texte très touchant. Sous ce christianisme intermittent survit un ensemble vivace de croyances venues du fond des âges. Les bergers continuent à lire l'avenir dans Abage, l'épaule du mouton. À croire aux Streghe et aux Mazzeri, autant qu'à Saint-Antoine de Padoue. Les rites païens, tant bien que mal baptisés, jalonnent la vie de tous les jours. Et les vieilles fêtes cycléennes de la nature se laissent aisément reconnaître sous leurs vêtements chrétiens. Mais le clergé des campagnes connaît bien ses ouailles et ne s'inquiète pas outre mesure de ses survivances. Pour qui sait voir, l'essentiel est ailleurs. Les visiteurs apostoliques s'attendrissent sur ces frustes montagnards qui les accueillent avec des salves et se pressent avec de modestes présents, se bousculent à la porte du confessionnal et écoutent bouche bée les prédications. Sur ce terrain propice à l'idéologie franciscaine naissent des saints. Les couvents des frères mineurs, observant les capucins, produisent en 2 siècles plus d'une trentaine de bienheureux et de vénérables morts en odeur de sainteté. Fin de citation. Après tout, cette Corse est la terre où l'on chante les déchirambodges et rios morts dans la plus antique tradition et où en même temps, on s'approprie si bien la liturgie chrétienne que l'on crée au fil des siècles, sans même le savoir, l'un des plus beaux répertoires de chants sacrés au monde. Comme quoi, les efforts de l'infatigable saint Alexandre Saoli ne furent pas vains. Lui, arpentant la Corse, offrant sa vie contre celle d'une bindetta, bâtissant le couvent de Cervioni et prêchant sans relâche pour l'amendement des mœurs et l'extinction des haines. Lui, que l'on appellera l'apôtre de la Corse, refusant de quitter l'île, déclaré « Corso di sua volontà » et déclarant « C'est le Seigneur qui m'a appelé en Corse. S'il veut m'en tirer, il en trouvera les moyens ». Sur son impulsion, et sans doute à la faveur d'un meilleur contexte, le clergé corse progresse durant le XVIIe siècle dans le sens de l'ordre romain, devenant, nous dit Polarighi, un clergé enraciné dans les communautés rurales, bien intégré à la population, accordé à sa mentalité, capable de le comprendre et éventuellement de le défendre. La sollicitude des curés de village avec leurs ouailles annonce le rôle que jouera un clergé patriote dans les révolutions de Corse. car c'est vers là que l'on se dirige. Mais avant de se ruer à l'assaut des citadelles génoises au cri de Ewiwa Baoli, Ewiwa Zampiero, il convient de cerner un peu mieux ce XVIIe siècle. Et cette Corse génoise, qui ne se résume certainement pas à une série de répressions et d'archaïsmes. Il serait même injuste de ne pas reconnaître la Sérénissime à la mise en place d'une politique agricole plutôt réussie. On l'appelle la cultivazione. Et d'ailleurs, le XVIIe va devenir au fil des ans probablement l'une des périodes les plus heureuses de notre histoire. Magoessa, di un'altra storia.